Jean-Frédéric Poisson, vous êtes président de VIA, le Parti chrétien-démocrate. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous allez donner deux conférences près de chez nous, demain soir à Lourdes et jeudi soir à Pau, sur la fin de vie et la dignité humaine, puisque vous avez écrit un livre intitulé « Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie » des éditions MAM. Est-ce que vous pouvez déjà juste nous définir les soins palliatifs, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, est-ce qu'on sait exactement ce que c'est ?
C'est bien ça le problème, c'est qu'en réalité, les Français ne sont pas encore très bien informé de la manière dont se passe la fin de vie d'un certain nombre de patients dans nos services, dans nos hôpitaux. Ils sont persuadés qu'en fait, ils n'ont le choix qu'entre des souffrances insupportables et la possibilité ou la perspective de mettre fin à ces souffrances insupportables par un choix qui serait celui de l'euthanasie. Et en fait, il y a une troisième voie. La troisième voie, est constituée par les soins palliatifs, c'est-à-dire le fait que des équipes de soignants professionnels, mais également des bénévoles de toute spécialité, accompagnent les patients dans leurs derniers moments d'existence pour à la fois soulager leurs douleurs, on sait le faire maintenant dans presque 100% des cas, mais également donner aux patients en fin de vie une vie sociale, apporter du confort, de la relation, de l'attention, de la présence, et faire en sorte que, même si les patients sont très fragilisés à la fin de leur existence, eh bien ils vivent une vie pleinement digne jusqu'à leur dernière seconde. C'est bien la moindre des choses qu'on leur doit. Cette pratique est peu connue, pourtant c'est un droit. Depuis 1999, le droit à bénéficier des soins palliatifs est inscrit dans le Code de la santé publique, mais jamais les pouvoirs publics n'ont fait l'effort pour les généraliser, communiquer à leur sujet. Il est plus que temps de le faire, alors que le Parlement va certainement être saisi à nouveau de ce sujet dans les semaines qui viennent.
Pourquoi n'est-ce pas appliqué, selon vous, alors que tout le monde y a droit, comme vous dites, à ces soins palliatifs ?
Il y a d'abord un choix budgétaire, c'est une variable d'ajustement. Ça fait partie des budgets qui ne sont pas très, très visibles, donc qu'on peut supprimer sans que ça se voit trop, malheureusement, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a une idéologie mortifère qui est portée par, de manière soit consciente, soit inconsciente, par les pouvoirs publics, et qui préfèrent la mort à la vie, c'est ainsi. Ça s'est vu dans l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ça se voit dans la manière dont un certain nombre de choix de santé publique sont effectués, ça se voit dans la façon dont on traite nos anciens dans les maisons de retraite, souvent. Enfin voilà, ce choix est implicite ou non, il existe dans la société contemporaine. Et troisièmement, il est clair que le développement des soins palliatifs supprime l'utilité du recours à l'euthanasie pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on est capable de faire en sorte que les patients en fin de vie ne souffrent plus, ne soient pas seuls face à leur douleur ni à leur souffrance.
Oui, et vous le disiez, ça n'est pas que médical, c'est vraiment un accompagnement humain.
Bien entendu, humain, psychologique, spirituel, relationnel, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On estime qu'il y a entre 6 et 7 personnes dans une unité de soins palliatifs qui sont en contact avec le patient. Alors évidemment, il y a des raisons aussi budgétaires, parce que nous sommes, chère madame, je suis désolé de devoir le dire, mais dans une relation sordide avec cette affaire. D'ailleurs, le rapport de la Fondapol, la Fondation d'idées politiques, qui est un think tank qui a pignon sur rue, dans un rapport il y a quelques mois, dit bien qu'évidemment, entre les 30 secondes que coûte une injection de je ne sais pas quel produit de potassium ou de poison, et les plusieurs jours qui peuvent occuper du personnel au pied d'un patient.
Oui, ça coûte plus cher, forcément.
Et voilà, le choix, l'arbitrage économique est immédiat. Donc pour des raisons économiques, politiques, spirituelles, je pense, il y a, d'un point de vue chrétien, ce qui est mon point de vue aussi, comme vous le savez sans doute, une bagarre entre les puissances du mal et les puissances du bien, et la mort contre la vie. C'est aussi ça, la grande bagarre du monde, de la condition humaine. Voilà, tout ça est en jeu pour faire en sorte qu'on ait préféré jusqu'ici taire un peu les solutions de vie et mettre en avant les solutions mortifères.
En France, on en est où en fait sur les soins palliatifs ? Est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays ?
Oui, et on est en retard par rapport à d'autres pays, on est en retard par rapport surtout aux objectifs fixés par la loi elle-même, comme on disait tout à l'heure. On estime qu'il manque environ, presque la moitié des lits, des personnels soignants, des budgets et des équipes d'accueil, pour satisfaire les besoins comme il le faudrait. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que des associations commencent à prendre le relais. C'est-à-dire, comme souvent en France, d'ailleurs, nous sommes le pays le plus dense sur le plan associatif dans le monde entier. Et de plus en plus d'associations produisent maintenant, ou pardon, comment dit-on, fournissent ou proposent des services de soins palliatifs à domicile chez le patient. Alors il y a des personnels soignants qui sont bénévoles, qui s'occupent de cela, des bénévoles accompagnants qui sont formés à cela. Ça se fait avec le soutien des collectivités locales, ça se fait en Indre-et-Loire, ça se fait dans l'Oise, ça commence à se faire dans les Hauts-de-Seine. Et finalement, c'est grâce à ces services associatifs, à ces actions associatives, que un certain nombre de personnes qui autrement n'y auraient pas accès peuvent bénéficier malgré tout des soins palliatifs.
Il faut être formé, c'est une longue formation pour accompagner quelqu'un en soins palliatifs ?
C'est pas une très longue formation, c'est ce qui est très difficile, c'est une des choses les plus difficiles à faire en existence, c'est être présent et silencieux, et être à l'écoute permanente de ce qui peut aider le patient être dans un confort et une estime de soi de plus importante que ce qui viendrait spontanément se produire. Donc je sais pas si je peux utiliser ce paradoxe, c'est une forme de formation à la passivité active. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
L'écoute active aussi, d'une certaine manière.
Écoute active, patience active, présence active, service actif, tout ça actif, mais au rythme de celui qu'on est en train d'accompagner. Donc ça peut être très lent, ça peut être pardon. Enfin voilà, c'est une formation à l'humilité en tout cas, et d'une très grande profondeur spirituelle, je crois.
Mais c'est une piste en tout cas de se dire que par les associations, on peut aussi utiliser ces soins palliatifs et pallier au manque de l'hôpital si on manque de moyens.
Absolument. Le problème, c'est que, évidemment, l'initiative associative ne dépend que de l'initiative des personnes là où elles sont. Pardon. Et avant qu'on généralise la présence de ces associations sur le territoire national, il va se passer beaucoup de temps. En attendant, c'est la responsabilité de l'État. Moi, je comprends que le Premier ministre a voulu scinder l'ancien texte de loi en deux parties, une pour les soins palliatifs, l'autre pour l'euthanasie.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ?
Je crois que c'est l'élément de clarté dont on avait besoin, parce que ce débat était entouré jusqu'ici d'une espèce de mensonge. Vous ne pouvez pas dire que l'euthanasie fait partie de l'offre de soins, ça n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un en expliquant que vous êtes en train de le soigner, ça n'existe pas. Mmh. Vous ne pouvez pas combattre d'un côté le suicide. J'ai été membre pendant 5 ans de l'Observatoire national du suicide entre 2012 et 2017, où je représentais le Parlement. Et j'ai participé au conseil, enfin aux discussions qui ont présidé au renforcement du site d'information du gouvernement sur la prévention contre le suicide. J'invite nos auditeurs à aller regarder sur le site du ministère de la Santé tout ce qui est fait pour que les gens ne se suicident pas. Et on va inscrire le suicide assisté dans la loi. C'est-à-dire que si vous vous suicidez tout seul, il ne faut pas le faire, mais si vous demandez à quelqu'un de vous aider à le faire, alors là, c'est bien. Quelle est cette folie ? Quelle est cette schizophrénie ? Donc il y avait une espèce de mensonge autour de ce débat.
Donc séparer les deux pour être une solution, en effet. D'un côté, les soins palliatifs, de l'autre, un projet de loi sur l'aide active à mourir.
Une solution, non. Il ne peut pas y avoir d'aide active à mourir sans que l'édifice entier du droit soit bouleversé. Il y a un interdit de tuer dans la législation et dans la morale naturelle, ça n'est pas pour rien. Si vous avez le droit de tuer votre prochain, quelles que soient les circonstances, alors que veut dire la fraternité, que veut dire la solidarité ?
Ça sera peut-être plus facile de débattre si on sépare les deux, en tout cas.
Voilà. Alors, en tout cas, le débat est plus facile, il est plus clair, et l'euthanasie va apparaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire le permis de tuer. C'est impossible, il n'y a pas de circonstances qui le justifient.
Les soins palliatifs, on voit que c'est quand même quelque chose qui fait l'unanimité, quels que soient les partis politiques. Il faut vraiment communiquer dessus le plus possible, c'est ça la solution, non ?
Parce qu'il y a l'urgence, c'est pour ça que le fait que le Parlement débatte de manière isolée est une bonne chose. J'invite nos auditeurs à aller chercher sur les sites internet, enfin les chaînes qui publient des images habituellement, ils trouveront ça facilement, des témoignages d'accompagnants en soins palliatifs, quelle que soit leur spécialité. Il y a des kinésithérapeutes, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des musiciens, il y a des comédiens, il y a des tas de gens qui interviennent auprès des patients qui sont en fin de vie. Et ces témoignages sont bouleversants. Vous savez, c'est quand on est enfant, on entend des gens parler de leur métier, puis on se dit avec des yeux brillants, ah ben, je veux être comme toi, ou je veux être comme lui. Alors ça peut être médecin, pompier, alpiniste, j'en sais rien. Quand on écoute ces personnes parler de leur activité quotidienne et de leur relation avec les patients, on est ébloui par la grandeur et l'humanité, le bien qui se dégage de tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien, et on a envie de faire comme eux. On se dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut propager, enfin. Cette espèce de facilité avec laquelle on décide de légaliser la violence et la brutalité, c'est quelque chose d'inhumain. Laissons un peu de place, un peu d'humanité dans cette période si difficile de la fin de vie, et prenons connaissance et faisons connaître ces témoignages d'accompagnants sans palliatifs, et ça s'imposera de soi. Vous mentionnez le titre de l'ouvrage que j'ai publié. Les soins palliatifs sont la vraie alternative à l'euthanasie. Si on connaissait les soins palliatifs, on ne parlerait même pas d'euthanasie. Il n'y en a pas besoin. Absolument pas besoin.
Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Et donc rendez-vous demain soir à Lourdes, à la salle Saint-Pierre à 20h30. Et jeudi soir à Pau, ce sera au lycée Immaculée Conception, 7 boulevard Édouard Herriot, à 20h30 également. Vous allez surtout nous parler des soins palliatifs. Vous allez aussi nous parler de témoignages dont vous parliez à l'instant.
Oui, j'en citerai quelques-uns. Mais j'essaierai surtout d'essayer de partager avec notre auditoire le message. Quel est le message, quelle est la philosophie, ce qui est l'objet de mon livre d'ailleurs, quel est le message d'humanité qui est porté par la pratique des soins palliatifs et que l'euthanasie est incapable de porter. Mmh. Et en fait, on se rend compte que cette humanité-là est presque un vrai projet de société pour notre temps. C'est ça qui m'a inspiré pour écrire cet ouvrage.
Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. À noter que vous pourrez dédicacer votre livre, bien sûr, sur place.
Oui.